Au nom du Père, et du Fils, et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Mes bien chers frères, le Saint Concile de Trente nous enseigne qu'il y a trois manières de communier, sacramentellement seulement, sacramentellement et spirituellement, spirituellement seulement. La première est celle des pécheurs qui ne reçoivent que physiquement le corps du Christ, mais ne reçoivent pas les effets spirituels de la communion, et qui eux-mêmes ne se donnent pas spirituellement à Dieu. La deuxième manière, sacramentellement et spirituellement, est celle du chrétien en état de grâce, qui, lorsqu'il reçoit la Sainte Communion, sacramentellement, donc physiquement, vit avec Dieu. Dieu vit en lui et lui vit avec Dieu. Et la troisième manière est celle du chrétien qui s'unit directement à Dieu, désire communier, sans pouvoir, sans recevoir le sacrement physiquement. Cette troisième manière est finalement assez proche de celle des anges qui vivent avec Dieu. Je vais donc vous parler aujourd'hui de l'importance de l'Esprit dans la Sainte Communion. Remontons un peu plus haut à la création. Dieu, qui est pur esprit, a créé tout le monde visible comme devant servir à une grande liturgie qui manifeste la gloire de Dieu, sa puissance et sa sagesse. Il suffit de regarder une fleur, une abeille, que sais-je, pour que nécessairement on remonte plus haut et on remonte à cette splendeur de l'habitation de Dieu dans l'âme des hommes. Et Dieu a donné toute la création à l'homme pour qu'il s'en serve afin de chanter à Dieu la gloire qui lui revient. Malheureusement, alors, cette liturgie donc a l'homme pour prêtre. C'est lui qui officie. Malheureusement, à cause du péché originel, l'homme qui s'est enorgueilli a cru se faire Dieu et il est tombé plus ou moins au rang des bêtes. Notre Seigneur veut faire éclater sa gloire, sa sagesse, d'une façon plus admirable par la rédemption qu'il ne l'avait fait par l'incarnation. Et sa sagesse va trouver une merveille. Le Verbe, deuxième personne de la Sainte Trinité, va s'incarner, devenir homme, et c'est lui désormais qui va offrir à Dieu son Père l'offrande de la grande liturgie, mais il va la faire beaucoup mieux. Il le fait en mourant sur la croix, et c'est évidemment beaucoup plus grand, beaucoup plus élevé que ce qu'il avait prévu à l'origine. Il demande à l'homme de s'unir à lui. Par là, il manifeste la petitesse de l'homme qui n'a pas le pouvoir, surtout depuis le péché, de monter directement par ses propres forces à Dieu. Et Nous ne le pouvons que par Jésus-Christ, qui étant sorti du Père, retourne au Père. Et notre Seigneur demande évidemment une union essentiellement spirituelle qui se fait par la foi et la charité. La tendance de l'homme est de revenir à la matière, de revenir au sens, de revenir à ce qui se voit, d'abord parce qu'il a été créé ainsi, il doit toujours s'abstraire, sortir de lui-même, et on doit toujours monter. À cause du péché, la pente naturelle est de redescendre vers le sensible. Et Monseigneur Lefebvre nous disait, lorsque vous prêchez Jésus-Christ, prêchez beaucoup plus sa divinité que son humanité. Ce que notre Seigneur attend de nous, c'est une vie semblable à la sienne. Nous n'aurions pas idée de voir en notre Seigneur Jésus-Christ l'aspect purement humain de sa vie. Cet aspect n'a d'intérêt que parce qu'il nous révèle l'amour du Père, la sagesse du Père. Il nous révèle Dieu qui est venu parmi les hommes pour faire remonter les hommes à Dieu. Et ce que nous devons contempler en notre Seigneur Jésus-Christ, c'est sa divinité, sa vie, cette merveille extraordinaire d'un homme, Jésus-Christ, qui vit dans le sein de la Sainte Trinité. Et vous le savez, notre Seigneur est un modèle pour nous tous, et nous devons vivre comme lui, parce que nous sommes les temples du Saint-Esprit. Comment notre Seigneur opère-t-il cette merveille? Par sa grâce qui nous donne la foi. Et la foi est active par la charité. Nous, c'est de la foi, par l'Esprit, que nous attendons l'espérance de la justice. C'est saint Paul aux Galates qui nous le dit. C'est la foi par la charité qui est la réponse. Enfin, Jésus nous donne la foi et la charité, et lorsque nous la recevons, nous répondons à cette démarche de Jésus-Christ. Et notre Seigneur, plein de condescendance, non seulement met la divinité à portée de notre humanité par l'incarnation, mais il prolonge l'incarnation par les sacrements. Et ce faisant, il vient comme nous toucher. Écoutez-moi bien, mes enfants ou les jeunes qui m'écoutaient, qui entendaient ce serment, c'est aussi pour vous que je prêche, pas seulement pour vos parents. Alors, vous savez, mes enfants, mes amis, que notre Seigneur s'est laissé toucher durant sa vie mortelle. Et ceux qui le touchaient avec foi recevaient des merveilles. Vous avez notamment cette femme malade d'un flux de sang qui se dit « si je peux toucher seulement la frange de son manteau, je serai guéri. » Elle touche la frange du manteau, notre Seigneur se retourne et dit « qui m'a touché ?» Il était au milieu d'une foule, on se bousculait pour le voir, pour le toucher, certainement on le bousculait lui-même, et il dit « qui m'a touché ?» Alors les apôtres répondent « mais Seigneur, pourquoi posez-vous cette question ?» Et alors la femme se présente, elle dit « c'est moi ». Notre Seigneur l'a guérie, et en même temps, évidemment, et lui donne un surcroît de foi, parce qu'elle avait déjà la foi. Il est évident que c'est notre Seigneur qui l'a attirée. Et en se laissant toucher, il l'a attirée à beaucoup plus que de le toucher physiquement. Elle a reçu cet appel de notre Seigneur qui a été conçu en elle par la foi et la charité. Et le miracle va développer cette foi et cette charité. Alors notre Seigneur va se laisser toucher dans le Saint-Sacrement. Et vous m'écoutez toujours, j'espère. Et notre Seigneur se laisse toucher dans le Saint-Sacrement, et comme pour la femme qui avait le flux de sang, il demande, ou il demande, il faut, disons qu'il est naturel, que nous touchions en esprit, en foi, en charité, beaucoup plus que physiquement. La Sainte Communion nous permet de recevoir le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ, mais également son âme et sa divinité. Ce qui fait que, d'une certaine manière, nous pouvons dire que nous touchons l'âme et la divinité de Jésus. Or, vous le savez, il n'est pas possible de toucher un esprit autrement que spirituellement. Par exemple, votre professeur, mes amis, ne vous fait pas entrer la science en vous touchant des mains, il fait entrer la science dans votre esprit par son propre esprit et par des explications qui sont spirituelles. Notre Seigneur fait beaucoup plus que le professeur, car il s'agit de beaucoup plus que de science. La science, c'est la foi. Il s'agit d'une foi qui anime la charité. Ce qui fait que ceux qui recevraient la Sainte Communion sans avoir cette foi et cette charité qui sont le but de la communion feraient comme les bourreaux qui touchèrent notre Seigneur Jésus-Christ, mais n'avait pas la charité qui permettait de recevoir la vie de lui. Ceux qui communient sacramentellement le touchent et en le touchant le reçoivent spirituellement. Enfin, il arrive que Jésus veuille faire monter plus haut. Et c'est ce qu'il va dire à Sainte Marie-Madeleine. Lorsque, après, juste après sa résurrection, il lui apparaît, vous avez Sainte Marie-Madeleine qui cherche Jésus. Elle est venue au tombeau, elle ne l'a pas trouvé, elle avertit Saint-Pierre et les apôtres. Puis elle revient, elle revient, elle ne sait pas ce qu'elle va trouver, elle ne sait pas comment cela va se passer, mais elle revient, elle veut le trouver, elle veut voir, elle voit le jardinier, si tu sais où il est, dis-moi où il est. Ce n'est pas le jardinier, c'est Jésus. Alors elle se précipite aux pieds de Jésus, qu'elle a déjà embrassé deux fois lorsque elle répandait le parfum précieux sur ses pieds. Et cette fois-ci, Jésus lui dit, Noli me tangere, ne me touche pas. Et car je vais à mon Père. Et par là, il lui montre une direction. Il va à son Père et elle doit l'accompagner vers son Père. Et donc il arrive que notre Seigneur nous prive de la communion sacramentelle en nous disant ne me touche pas, non pas pour nous écarter de lui, mais pour nourrir en nous, développer en nous cette vie spirituelle de la foi et de la charité, que nous soyons moins préoccupés par la communion sacramentelle et beaucoup plus préoccupés par la communion à la divinité et à l'âme de Jésus-Christ. Je vais terminer ce sermon puisque j'ai pris la résolution d'être bref, encore que je ne sais pas si je vais y arriver autant que je le voudrais aujourd'hui encore. Je termine en m'adressant plus particulièrement aux jeunes et aux enfants. Pour préparer ce sermon, mes chers amis, j'ai relu les mémoires de Sœur Lucie de Fatima. Elle raconte sa vie, son éducation avant les apparitions, et elle raconte sa première communion. Elle n'en avait que 6 ans, mais elle savait parfaitement bien le catéchisme, parce que c'est une question d'amour. On aime bien on connaît bien ce qu'on aime bien. Et sa maman lui dit, va à l'église avec les autres enfants, je suis sûr que monsieur le curé te fera faire ta première communion. Alors monsieur le curé admire la science de Lucie, mais lui dit, non, tu es trop jeune, 6 ans c'est trop jeune, faut que tu attendes l'âge de 7 ans. À l'époque, en France, on attendait même l'âge de 12 ans, voire de 14 ans. Alors la petite Lucie se met à pleurer et elle fait comme elle l'aurait fait avec sa mère, elle lui met la tête sur les genoux, elle pleure sur les genoux du bon curé. Celui-ci est ému, il y avait un prêtre qui aidait le curé, qui est ému, et finalement ils interrogent Lucie et tout se passe bien, elle pourra faire sa première communion. Alors, avant la première communion, elle va se confesser. Elle se confesse au bon prêtre qui a pris sur lui de la faire communier. Et elle ne fait pas attention, elle se confesse à haute voix. Tout le monde entend cela et se met à rire. Mais il y a une phrase qu'elle n'entend pas. Alors la maman lui dit, mais quelle est la phrase que monsieur le curé t'a dite là? Nous n'avons pas entendu ce qu'il t'a dit. Lucie lui dit, c'est un secret. Et puis dans ses mémoires, elle le révèle, il lui a dit, rappelez-vous, ma petite fille, que vous êtes le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu. Alors, allez demander à la Sainte Vierge qu'elle garde votre âme toujours pure pour que vous soyez ce temple de Dieu. Lucie va donc vers une des statues de la Sainte Vierge. Elle se met en prière et elle fait sa demande à la Sainte Vierge. Alors elle lève les yeux vers la Sainte Vierge et elle voit Notre-Dame lui sourire. Et elle comprend que sa demande est acceptée. Elle revient toute heureuse à la maison, elle annonce qu'elle fera sa première communion. Alors sa sœur aînée, le matin, l'amène près de ses parents, afin qu'elle demande pardon aux parents des fautes qu'elle a pu commettre envers eux et qu'elle reçoive leur bénédiction. Alors, c'est vraiment touchant. Alors, la maman reçoit Lucie des mains de sa grande fille et elle va lui donner les dernières recommandations. Elle ne lui dit presque qu'une chose, demande à Jésus de faire de toi une sainte. Les paroles de la maman sont vraiment les paroles de Dieu. Si Dieu nous a donné des bons parents, il est évident qu'en ces moments solennels, c'est lui qui parle par leur bouche. Et sœur Lucie, au moment où elle écrit ses mémoires, dit que ces paroles de sa maman sont restées profondément gravées dans son cœur. Et que c'est la première chose qu'elle a dite à Jésus juste après sa communion, « Ô mon Jésus, faites de moi une sainte. » Et Jésus lui répondit, non par des paroles, mais lui fit comprendre qu'il acceptait sa prière, qu'il agréait sa prière et qu'elle serait exaucée. On voit là le grand amour de Jésus qui peut paraître extraordinaire, il s'agit de Sœur Lucie et non pas de nous. En réalité, je crois que c'est exactement l'inverse. Si la Sainte Vierge, si Jésus ont choisi trois petits-enfants d'un simple hameau au Portugal, c'est pour nous montrer qu'il s'agit de nous tous et que nous tous, nous pouvons, comme Lucie, parler cœur à cœur à Jésus et à Marie. Et nous recevrons la réponse, peut-être pas de la même manière, mais nous avons suffisamment de foi pour savoir que notre Seigneur agrée toujours les demandes que nous lui faisons de vivre avec lui, de vivre spirituellement avec lui, de vivre divinement en union avec son âme et sa divinité. Demandez donc à la Sainte Vierge, mes bien chers frères, et vous aussi, mes chers enfants, demandez-lui ce que Sœur Lucie lui a demandé, et soyez certains qu'elle vous l'accordera. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.